êtes bien sur France Culture et dans une poignée de secondes, il sera midi et demi. L'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Et nous reviendrons tout d'abord sur le discours prononcé ce matin par Emmanuel Macron et son projet de loi de lutte contre les séparatismes visant à renforcer la laïcité et consolider les principes républicains.
Les indicateurs de la pandémie de Covid-19 continuent de se dégrader en France.
Et notamment dans la capitale qui pourrait passer dès lundi en alerte maximale. Quoi qu'il en soit, le conseil scientifique dresse lui d'ores et déjà un constat alarmant de la situation épidémique et anticipe un possible débordement des capacités hospitalières dans les toutes prochaines semaines.
Bientôt la fin des conditions de détention indignes en France.
Oui, le Conseil constitutionnel a ouvert la voie ce matin à une loi censée permettre aux détenus provisoires de faire respecter leur droit à ne pas être enfermés dans une cellule insalubre et surpeuplée. C'est le dernier rebondissement en date dans la campagne présidentielle américaine. Ce matin, Donald Trump a annoncé avoir été testé positif au nouveau coronavirus et ce à peine plus d'un mois avant l'élection. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, nous recevrons François Cornu-Gentille, député Les Républicains de Haute-Marne. Accusé de tergiverser sur le sujet après avoir notamment reporté à plusieurs reprises son intervention, Emmanuel Macron a donc fini par présenter ce matin son plan d'action contre les séparatismes. Un discours que le chef de l'État a choisi de prononcer au Mureau, cette commune des Yvelines, souvent présentée déjà par le passé comme un symbole des difficultés de la banlieue et où certaines cités sensibles sont depuis longtemps minées par des affaires d'islamisme radical. Car si l'exécutif préfère aujourd'hui le terme de séparatisme, la cible de ce projet de loi n'en reste pas moins clairement désignée, la dérive extrémiste d'une partie de la communauté musulmane. Un dossier sensible donc, qui plus est à l'approche de la présidentielle, puisque lorsque le futur texte arrivera en débat parlementaire au premier semestre de l'année prochaine, cela signifie qu'une année seulement séparera alors l'éventuel candidat Macron de la prochaine échéance. Et d'ailleurs, le procès en opportunisme politicien ne s'est pas fait attendre, puisqu'avant même le discours du chef de l'État, quand la gauche dénonce une offensive électoraliste, éloigné des préoccupations actuelles des Français, la droite et l'extrême droite qui entendent bien faire des sujets régaliens l'une des priorités de leur campagne pour 2022 expriment d'ores et déjà leur scepticisme. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct des Mureaux. Vous avez assisté donc au discours du chef de l'État. Quelles sont, Antoine, les priorités sur lesquelles le président a insisté ce matin ?
Un très long discours d'Emmanuel Macron de plus d'une heure, un discours très offensif avec un ennemi nommé dès le début, l'islamisme radical. L'islam est une religion qui vit une crise partout dans le monde, affirme le chef de l'État. Il appelle à un réveil républicain et une mobilisation de toute la nation contre le séparatisme. Et il esquisse le futur projet de loi avec comme premier axe la neutralité du service public.
Les élus, parfois sous pression de groupes ou de communautés, ont pu envisager et peuvent envisager d'imposer des menus confessionnels à la cantine. D'autres élus excluent ou projettent d'exclure les hommes ou les femmes de certains créneaux d'accès aux piscines. Une fois la loi votée, le préfet pourra suspendre les actes municipaux correspondant à ces situations. En constatant cette carence républicaine, et si sa décision n'était pas appliquée, se substituer à l'autorité locale avec l'accord du juge.
Autre axe de ce projet de loi, les associations sportives, d'aide alimentaire ou autres qui sont en fait infiltrées par des fondamentalistes qui déploient une stratégie d'endoctrinement. Le texte étendra la possibilité de les dissoudre si par exemple elles portent atteinte à la dignité humaine. L'école est également une préoccupation majeure du chef de l'État. Il s'inquiète en particulier de la déscolarisation croissante et il promet une mesure forte.
Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Nous changeons donc de paradigme, et c'est une nécessité.
Un changement de paradigme, effectivement, très net pour Emmanuel Macron. En 2016, il fustigeait la laïcité revancharde. Désormais, il l'affirme, le problème, ça n'est pas la laïcité. La laïcité, c'est notre affaire à tous.
Merci Antoine Marette, en direct des Mureaux avec François Rivalan pour les moyens techniques. Alors parmi les priorités de ce plan d'action, vous le disiez Antoine, figure notamment une stricte limitation de l'instruction scolaire à domicile aux impératifs de santé. Et puis Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé que les écoles hors contrat feraient l'objet d'un contrôle renforcé dans le but, je cite, d'assurer l'école pour tous. Marc Potvin, bonjour.
Bonjour à tous.
En quoi consistent, Marc, précisément ces écoles privées hors contrat ?
Eh bien, ce sont des établissements qui ne reçoivent aucun argent public et surtout où l'on n'a pas besoin de diplôme pour enseigner et pas besoin de suivre les programmes. 85 000 élèves y sont scolarisés dans le premier et le second degré, selon les derniers chiffres. Ils ont continué d'augmenter en 2019, mais moins que précédemment, observe toutefois le ministère de l'Éducation nationale. Ces établissements ne sont pas tous confessionnels, loin de là. En réalité, seul un tiers le sont, contrairement aux écoles clandestines. Dénoncées par Emmanuel Macron dans son discours, ces écoles privées hors contrat ne sont pas totalement hors des radars du ministère, mais les possibilités de les contrôler sont limitées. Si l'on peut passer au crible leurs sources de financement au moment de leur ouverture, il est plus difficile de le faire ensuite, souligné ainsi récemment le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour qui la fermeture d'un établissement qui viole manifestement les règles de la République est un processus encore trop difficile et trop lourd. Depuis 2018, seules 3 écoles privées hors contrat ont fermé. Constat qui amène donc Emmanuel Macron à annoncer ce renforcement des contrôles dans ces établissements. Il veut aussi doter le ministère de l'Éducation nationale du pouvoir de procéder à des fermetures administratives quand elles s'imposent. Toutes ces mesures seront précisées dans un projet de loi examiné en Conseil des ministres au mois de décembre.
Merci Marc Potvin. Alors ce discours ce matin du chef de l'État intervient bien sûr aussi dans un contexte particulier. En l'occurrence, une semaine jour pour jour après l'attaque à l'arme blanche perpétrée par près des anciens locaux de Charlie Hebdo, mais également en plein procès des complices des auteurs des attentats de janvier 2015. 14 accusés au total, dont 3 par défaut soupçonnés de soutien logistique. Ce procès historique doit s'achever le 10 novembre prochain. Et ce matin, signalons que la cour d'assises spéciale a refusé de faire droit à une demande d'audition de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, réclamée par des parties civiles qui jugeaient ce témoignage nécessaire afin de comprendre notamment s'il y a eu des failles dans la surveillance policière des locaux de l'hebdomadaire satirique. Finalement, le président de la cour d'assises a estimé que cette audition n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité.
Le droit à la dignité, même en prison.
Oui, ce matin, dans un arrêt très attendu, le Conseil constitutionnel a demandé d'inscrire dans la loi la possibilité pour un juge de mettre fin aux situations de détention inhumaines et dégradantes et, si rien n'est fait pour y remédier, de favoriser alors la remise en liberté des détenus sous bracelet électronique ou assignation à résidence. Le Collège des Sages ordonne au Parlement de voter une loi en ce sens avant mars prochain. Je vous propose d'écouter Maître Maxime Gouache. Il fait partie des avocats qui ont plaidé devant le Conseil constitutionnel et il salue bien entendu une décision historique, il le dit à Arnaud Rozac.
C'est une grande victoire pour nous, bien évidemment, cette décision. Il y a un changement important, c'est que le Conseil constitutionnel écarte tous les arguments qui avaient été ceux du gouvernement et nous donne raison sur le point central que nous soulevions devant le Conseil constitutionnel, c'était qu'il appartenait aux législateurs de prévoir dans la loi une voie de recours qui permette de mettre fin à des conditions de détention contraires à la dignité humaine, ce qui, selon nous, n'était pas le cas jusque-là. La question prioritaire de constitutionnalité qu'on avait soulevée était effectivement une question qu'on soulevait dans le cadre du contentieux de la détention provisoire. Maintenant, je crois que l'enjeu pour le législateur, c'est de ne pas se limiter à la question de la détention provisoire, parce que les problèmes se retrouvent également pour des personnes qui peuvent être condamnées et incarcérées en maison d'arrêt dans des situations exactement similaires. Je crois qu'il faut réfléchir à des voies de recours qui pourraient s'appliquer aussi bien dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, mais également devant le juge d'application des peines pour des personnes qui sont condamnées.
Voilà, Maître Maxime Gouache, joint au téléphone par Arnaud Rozac.
Paris et sa petite couronne, mais aussi Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse ou bien encore Saint-Étienne, toutes ces villes ont obtenu un sursis hier malgré une évolution préoccupante de la situation sanitaire.
Mais autant de villes qui restent toutefois sous la menace d'une mise en alerte maximale dès lundi, synonyme le cas échéant de restrictions radicales comme la fermeture totale des bars et restaurants. Depuis, une véritable course contre la montre a démarré pour ces professionnels, sommés de renforcer encore leur protocole sanitaire pour avoir une chance de rester ouvert. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte que l'on a appris hier la nature du rapport du Conseil scientifique remis le 22 septembre dernier aux autorités, un document de 42 pages qui dresse un constat alarmant de la situation épidémique. Stéphane Geneste, bonjour.
Bonjour Thomas.
Les modélisations sur lesquelles s'appuie ce rapport ont anticipe, si rien n'est fait, un débordement des capacités hospitalières dans plusieurs régions d'ici à quelques semaines avec plusieurs milliers de décès à la clé.
Oui Thomas, dans cette note, le conseil scientifique adresse bel et bien un signal d'alerte. Les spécialistes vont même plus loin. Les 4-5 mois qui viennent seront particulièrement critiques, notamment dans certaines métropoles. En effet, la circulation du virus reprend avec des conditions climatiques qui vont favoriser sa transmission, d'autant qu'une des projections du conseil prévoyait une deuxième vague à l'automne. Vous le disiez Thomas, le conseil scientifique craint plusieurs milliers de décès dans les prochaines semaines. Le bilan humain le plus pessimiste aussi, entre 4 et 12 000 morts supplémentaires entre la fin du mois de septembre et le 1er novembre, et cela sans tenir compte de la surmortalité qui pourrait survenir en cas de saturation des hôpitaux, ni de la mortalité dans les EHPAD.
Et dans cette note, Stéphane, le conseil scientifique précise donc qu'il faut agir d'urgence.
Oui Thomas, pour ce faire, 4 options ont été proposées aux autorités. La première, ne rien faire de plus que ce qui est déjà appliqué. La deuxième, mettre en place des mesures différenciées en fonction des risques, notamment l'âge ou l'état de santé. La troisième, un mélange de mesures volontaires et contraignantes. Et enfin, la quatrième, des mesures fortes, contraignantes, impliquant par exemple un couvre-feu. C'est donc la troisième option qui a été privilégiée par le gouvernement. Par ailleurs, ces propositions ne sont pas incompatibles, elles peuvent être combinées. On l'a vu, certaines peuvent s'appliquer à l'échelle territoriale, comme par exemple à Marseille, où les bars et les restaurants ont dû fermer. Urgence à agir donc, mais les effets de ces mesures ne seront visibles que dans une dizaine de jours.
Merci Stéphane Geneste. La première édition des états généraux des festivals se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain à Avignon. Objectif, aider les organisateurs d'événements culturels à traverser la crise sanitaire après la cascade d'annulation depuis le début de l'épidémie et notamment en réfléchissant à une évolution possible de leur modèle économique.
C'est sur son canal favori, Twitter, que Donald Trump a lui-même annoncé la nouvelle ce matin.
Oui, lui et sa compagne Melania ont tous deux été testés positifs au coronavirus après que l'une des proches collaboratrices du président, une ex-mannequin plutôt discrète dans les médias mais très influente dans les coulisses, a elle-même contracté le virus. Un coup de théâtre de plus donc dans cette campagne américaine à un mois de l'élection présidentielle. Nous allons bien sûr y revenir. Mais avant cela, notons que Donald Trump rejoint ainsi la liste des autres présidents ou chefs de gouvernement qui ont contracté la maladie, qu'il s'agisse de Jair Bolsonaro au Brésil ou de Boris Johnson au Royaume-Uni, c'est-à-dire ceux-là même qui, tout en qualifiant le virus de grippette, ont toujours clamé haut et fort que jamais ils ne changeraient leur mode de vie. Et à ce titre, Olivier Poujade, eh bien, ce rebondissement dans la campagne était aussi attendu que redouté, tant le locataire de la Maison-Blanche aura passé son temps ces derniers mois à ironiser sur le virus, encourageant même ses supporters à ne pas porter de masque.
Depuis le début du mois de mars, à 34 reprises, Donald Trump a affirmé que l'épidémie était sur le point de disparaître. Que beaucoup de gens pensaient qu'elle disparaîtrait en avril avec le retour de la chaleur et du beau temps. Comme par miracle un jour, que plus personne n'en parlerait. Le président américain n'a jamais caché ses désaccords non plus avec son conseiller scientifique, le docteur Anthony Fauci, considérant ce virus moins dangereux qu'une grippe. Vous savez, nous avons des milliers, des centaines de milliers de personnes dont l'état s'améliore parce qu'ils vont juste faire un tour pour prendre l'air, et même parce qu'ils se rendent à leur travail, ça leur fait du bien. L'activité économique avant l'urgence sanitaire, c'est le credo de Donald Trump, qui a longtemps également insinué que les taux de mortalité annoncés étaient basés sur des intuitions. Il s'est même risqué à quelques diagnostics pour vaincre cette épidémie. Imaginez que l'on expose votre corps à une puissante lumière, que l'on utilise un désinfectant. On peut imaginer quelque chose comme ça, par injection. Il est encore trop tôt pour dire si Donald Trump compte aujourd'hui s'injecter de l'isopropyl pour vaincre cette maladie contre laquelle il promet la sortie imminente d'un vaccin depuis le 25 février dernier, peu de temps avant que le pic de l'épidémie ne touche les États-Unis.
Voilà, alors évidemment, toute la question désormais est de savoir si la campagne de Donald Trump survivra à cet épisode. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
D'ores et déjà, celui qui a fait de son physique énergique une arme et même un atout face à son adversaire démocrate qualifié de Joe l'Endormi a été contraint d'annuler son meeting ce soir en Floride, un état clé dans la course à la Maison-Blanche.
Ah oui, la Floride, vous savez, c'est en effet un état swing, c'est-à-dire qu'il peut changer de camp d'une élection à l'autre. Et c'est un état qui rapporte 29 grands électeurs à celui qu'il remporte. Trump doit le remporter si s'il veut gagner. Autant dire que l'annulation de son meeting est importante. Autre conséquence, le doute qui plane sur la tenue ou non du prochain débat avec son challenger, le démocrate Joe Biden. Ce débat doit avoir lieu le 15 octobre prochain à Miami. Rien ne dit qu'il sera en mesure d'assurer ou non le rendez-vous. Autant dire que c'est un cauchemar pour toute son équipe de campagne qui va devoir réaménager toute sa campagne. On peut le rappeler, on est à 32 jours de l'élection et qu'il est à la traîne dans les sondages. Ensuite, il va falloir suivre l'état de santé de Donald Trump. S'il est asymptomatique et que cela n'a aucune incidence sur son état physique, on peut imaginer que grâce aux nouvelles technologies, des meetings virtuels ou des prises de parole sur certains réseaux sociaux. En revanche, s'il tombe vraiment malade, alors les choses pourraient se compliquer. On n'en est pas là puisque la Maison-Blanche a fait savoir que le président en quarantaine peut continuer d'assumer ses fonctions. Trump, malade du coronavirus, c'est vraiment quand même la tuile qu'il ne fallait pas, car sur le fond, vous l'avez un petit peu évoqué, cela donne aussi des arguments aux démocrates qui n'ont eu de cesse de critiquer sa gestion de la pandémie en expliquant qu'il l'avait minimisée. Et puis enfin, conséquence directe, les bourses qui sont aujourd'hui à la baisse avec ce sentiment que les marchés croient moins en sa réélection.
Merci Nathanaël Charbonnier. Les dirigeants de l'Union européenne ont finalement donné leur feu vert tôt ce matin pour sanctionner le régime au pouvoir en Biélorussie. Des mesures dirigées essentiellement contre les responsables de la répression de l'opposition politique. La liste comprend une quarantaine de noms. En revanche, le président Alexandre Loukachenko n'y figure pas. Alors le principe de ces sanctions avait été approuvé en réalité il y a déjà plusieurs semaines, mais l'unanimité des 27 était requise pour leur mise en œuvre. Or jusqu'à présent, Chypre conditionnait son accord à une prise de position ferme de ses partenaires européens contre les violations de ses eaux territoriales par la Turquie. Et finalement, après plus de 7 heures de discussion, le président chypriote a donc obtenu gain de cause. L'UE imposera des sanctions à la Turquie si les provocations et les pressions continuent en Méditerranée orientale, là où Ankara, Nicosie, mais aussi Athènes se disputent des gisements d'hydrocarbures. Enfin, j'ajoute que les dirigeants européens ont également fait part de leur préoccupation face à la montée des hostilités dans l'enclave séparatiste du Haut-Karabakh, théâtre de combat entre Arméniens et Azerbaïdjanais, l'UE qui condamne notamment toute ingérence extérieure, une mention qui implicitement vise Moscou et Ankara.
C'était il y a 2 ans, jour pour jour, un journaliste était assassiné dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie.
Oui, son nom, Jamal Khashoggi, l'homme exilé aux États-Unis, écrivait notamment dans le quotidien américain Washington Post, et il était, vous le savez, l'une des voix les plus critiques du pouvoir en Arabie Saoudite. Alors, il se trouve que lundi dernier, le parquet d'Istanbul a inculpé 6 nouveaux Saoudiens soupçonnés d'être impliqués dans cet assassinat, ou quand les autorités turques entendent bien poursuivre la quête de justice après que la justice du royaume wahhabite, celle-ci, a annulé le mois dernier les 5 peines capitales prononcées à l'issue d'un procès à huis clos. Correspondance à Istanbul, signée Anne Handlauer.
2 ans après les faits, les autorités turques sont convaincues d'avoir fait la lumière sur l'assassinat commis le 2 octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite, en plein centre d'Istanbul. Grâce aux écoutes téléphoniques, aux caméras de surveillance, aux centaines d'heures d'interrogatoires et aux preuves matérielles récoltées dans le bâtiment lors de perquisitions, elles estiment avoir établi avec précision la chronologie, le mode opératoire et le rôle de chaque suspect. Une seule réponse leur manque. Qu'est-il advenu des restes de Jamal Khashoggi, tué par strangulation, avant que son corps ne soit démembré ? Si une plaque honore sa mémoire à quelques mètres du consulat, le journaliste saoudien n'a toujours pas de sépulture. Ses amis en Turquie, notamment sa fiancée turque, continuent de réclamer justice. En juillet, un procès s'est ouvert à Istanbul. Les 20 suspects, tous saoudiens, étaient absents, leur pays refusant de les extrader. La justice turque accuse 18 d'entre eux d'avoir pris part directement à l'assassinat et 2 autres d'avoir ordonné et planifié le crime. Ces derniers sont des proches du prince héritier, Mohamed Ben Salman, mis en cause par Ankara. Ils ont été blanchis par la justice de leur pays. Cette semaine, le parquet d'Istanbul a inculpé 6 autres suspects pour la mort du journaliste. Là encore, ils sont tous saoudiens et là encore, aucun n'est en Turquie.
L'invité de la rédaction à présent aujourd'hui, François Cornu-Gentil, député Les Républicains de Haute-Marne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Pierre Neveu. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors vous avez suivi, j'imagine, ce matin le discours d'Emmanuel Macron, le président, qui a nommé plusieurs fois l'islamisme radical et appelé à un réveil républicain. Est-ce que c'est ce que vous attendiez ?
Écoutez, sur le réveil républicain, je pense que à gauche comme à droite, tout le monde est d'accord. Il voit bien qu'il y a un malaise depuis quelques années. En revanche, je pense, donc sur les objectifs, on peut évidemment les partager. En revanche, je pense que le président ne crée pas les conditions du dialogue républicain qui est souhaitable sur ces sujets. Il est en contradiction avec lui-même. Il dit que ce sont des sujets qui nécessitent d'appréhender une certaine complexité, de nommer les choses, de pas éviter. Et on a été depuis une semaine sur un grand débat sur le séparatisme, savoir ce que c'est que le séparatisme. On apprend ce matin que c'est le radicalisme islamique. Voyons, on maintient des tas de grands concepts flous et finalement, on est dans des querelles de mots alors que c'est la vie des Français qu'il faut essayer de changer. Et je pense que c'est pas créer les conditions d'un débat serein. Il nomme l'islam radical, il dit que ça c'est un sujet qu'il faut isoler. Bon, acceptons d'en discuter. Et il dit dans le même temps qu'on va organiser l'islam en France. Faire les deux choses en même temps n'est-ce pas nécessairement amener certains à faire des amalgames? Vous voyez, je trouve qu'il y a une contradiction entre ce qu'il exprime sur la complexité du sujet qui est réel et puis les propositions vers lesquelles on s'oriente qui ne tiennent pas compte de cette complexité, qui ouvrent toutes les portes et qui risquent de faire un débat très, très verbeux où chacun prendra des positions plus ou moins déclamatoires et où on n'avancera pas réellement. Je crains des textes incantatoires en réalité.
Question de Pierre Neveu.
François Cornu-Gentil, député LR de Haute-Marne, le chef de l'État, a présenté les grandes lignes de ce que sera le texte de loi présenté en Conseil des ministres début décembre. Renforcer la neutralité des services publics, renforcer la neutralité des associations sportives, l'instruction à l'école obligatoire pour tous dès l'âge de 3 ans. Est-ce que cela va dans le bon sens? Est-ce que c'est ce que vous attendiez?
Mais sur les objectifs, je pense qu'ils peuvent être partagés par tous les républicains de gauche, de droite et du centre. La difficulté que l'on a, et qui ne semble pas être appréhendée, ce qui m'inquiète, c'est que, vous voyez, faire les associations, mieux surveiller les associations, tout le monde est absolument d'accord là-dessus. Le problème, c'est que les associations séparatistes, ou dangereuses, ou à surveiller, elles accepteront de signer les chartes. Donc, vous voyez, on risque de faire des textes où on se payera de mots. La réalité est beaucoup plus du séparatisme, elle est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup moins cernable que par des gros outils juridiques. Et donc, je crains qu'on ait une fois de plus, dans ces domaines sensibles, une république qui fait des grands, un président qui fait des effets d'annonce, une majorité qui vote, un grand débat, etc., et pas pris sur la réalité. C'est ça qui m'inquiète. Donc, oui, on va dans le bon sens, mais en réalité, on reste dans les mots, donc on n'avance pas. Peut-être qu'on va dans le bon sens, mais on ne bouge pas en réalité.
Ce projet de loi sera soumis à la représentation nationale au semestre de l'année prochaine. On sera alors à un an de la présidentielle. Est-ce que c'est le bon tempo?
Je pense que c'est effectivement pas le très bon tempo et effectivement il y a une contradiction. Le président Macron dit vouloir dépolitiser. On voit bien qu'il y a une crise économique qui s'annonce, on voit bien qu'il y a des questions sur le Covid, ouvrir ce débat ultra sensible d'aujourd'hui. Voilà, on voit bien la manœuvre qui est de se positionner sur les thèmes régaliens, les thèmes de droite. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire les choses? Si on avait eu vraiment envie de faire les choses, je pense qu'il y aurait eu aussi consultation des différentes formations politiques sur le sujet pour qu'il y ait une vraie réflexion qui s'engage et que les uns et les autres ne se contentent pas des postures que l'on connaît depuis des années.
Il y a plusieurs réponses pour lutter contre l'islamisme radical. Question, une réponse sécuritaire, une réponse éducative, une réponse économique. Et puis il y a aussi la politique de la ville. Le chef de l'État, il y a fait allusion.
Oui, allusion. Alors, mais elle est l'oublier. Alors on a fait un petit clin d'œil amical à Bordeaux pour éviter ou faire oublier la manière dont on l'avait traité il y a quelques années. Mais en réalité, il n'y a pas de politique de la ville. Et dans les quartiers que j'ai étudiés, notamment moi en Seine-Saint-Denis, on voit bien que le séparatisme existe sur le fond. Pas simplement de problème d'urbanisme, mais d'un État qui n'assure pas ses missions centrales, qui sont l'école, qui sont la sécurité, qui sont la justice. Et là-dessus, ce plan-là n'est pas du tout évoqué. Donc moi, je pense qu'il y a une nouvelle politique de la ville à réinventer sur les fonctions centrales de l'État, en réalité.
François Cornu-Gentil, une dernière question rapidement. Le président devait s'emparer de ces questions autour de l'islam radical pour faire taire les critiques sur une éventuelle faiblesse?
Oui, il est très soucieux de se corriger de ce qu'on accuse sur le sujet. Mais je crois vraiment, compte tenu de la gravité de la situation, ces petites manœuvres sont assez déplorables. Je pense que c'est à tout le monde de se hisser au niveau. La vérité, c'est que le président, pas plus que toutes les formations politiques, n'ont de vraies solutions. Je crois qu'il y a vraiment un travail en profondeur à faire sur le pays, qui n'a pas été accompli. Travail, vous voyez, le président a annoncé ça. Les ministères ont travaillé dans leur coin. Il fallait travailler avec les personnes de terrain, il fallait travailler avec les différents partis politiques. Je pense que c'est aussi la méthode verticale qui est en cause, alors que le président incarne plus particulièrement que d'autres, mais qui est un peu la méthode de toutes les formations politiques qu'il faut changer sur ces sujets nouveaux.
Merci François Cornu-Gentil, député Les Républicains de Haute-Marne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Pierre Neveu. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par des vents violents dans le nord-ouest qui sera balayé par la tempête Alex, avec une vigilance jaune sur le Morbihan et orange sur les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. La vigilance rouge cette fois-ci est également de mise dans le sud-est, avec un risque d'orage et d'inondation sur 4 départements. Les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et le Var. Partout ailleurs, l'après-midi s'annonce perturbé, avec des épisodes pluvieux parfois soutenus. Quant aux températures, elles afficheront entre 12 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Annabelle Grelier pour le prochain journal de la rédaction.